Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h10, c'est RMC, et c'est le week-end des experts avec Laetitia Barlerin, notre vétérinaire, vous le savez, qui est là tous les dimanches. Laetitia. Vous savez que tout à l'heure, ça sera le rendez-vous auto avec Jean-Luc Moreau, notre expert auto.
Eh oui.
De temps en temps, il check un peu votre voiture ou pas, Jean-Luc?
Ah bah j'aimerais bien qu'il la check parce que je sais pas changer une ampoule.
Ah bah c'est voilà, compliqué. Il va falloir lui poser la question tout à l'heure, Jean-Luc.
Eh oui, c'est
vous juste. Avez une ampoule qui a grillé, Laetitia, sur
oui,
votre voiture?
Oui, oui.
Mais attendez, mais Jean-Luc va se faire un plaisir de
non, mais vous réparer savez, tout vous ça. Vous savez, dans ces nouvelles voitures,
oui.
Avant au moins, on a enlevé l'ampoule, on l'a remplacée, enfin un truc.
Oui.
Maintenant, il faut, je sais pas,
oui,
il faut avoir son diplôme en mécanicien.
Pour enlever une ampoule, c'est
ouais.
Vrai, vous avez raison. Bon, Jean-Luc, il sera là tout à l'heure entre 8 et 10. On s'intéressera tout à l'heure au salon automobile de Tokyo avec Jean-Luc entre 9 et 10, puisque Jean-Luc y était à ce salon donc de l'automobile au Japon. Et vous verrez que là-bas, eh bien, on a véritablement d'ores et déjà la voiture du futur. Que ce soit la voiture hybride, mais la voiture électrique, hein, c'est quelque chose qui est acquis au Japon. Et on en parlera. Quelles sont ces tendances de ce salon du Japon de Tokyo avec Jean-Luc tout à l'heure. Donc, Laetitia, nous allons commencer par une histoire mignonne comme tout. Ce sont deux éléphantes qui sont à Lyon. On en a parlé.
Qui étaient à Lyon.
On en a parlé il y a quelques mois de cela. Elles étaient menacées, ces éléphants,
oui.
Laetitia.
Alors c'est il y a 2 ans déjà. Hein. Le
deux
temps
ans.
Se passe vite.
Vous vous rendez compte?
Et nous sommes avec le docteur Florence Olivier Courtois, qui est vétérinaire itinérante pour la faune sauvage et auteur d'un livre justement qui s'appelle Au bonheur des éléphantes aux éditions Belin. Florence, bonjour.
Bonjour.
Alors, comme on disait, votre dernier livre retrace en grande partie l'histoire de Népal et Baby. Ce sont les deux éléphants d'Asie dont le sort avait ému la France il y a 2 ans maintenant. Elles ont échappé à l'euthanasie au terme d'un vrai feuilleton. Alors, il y avait des rebondissements, du suspense. Voilà, ça a duré plusieurs mois à savoir est-ce qu'elles allaient ou non être euthanasiées, est-ce qu'on allait les sauver. Leur seul crime, c'était d'être soupçonnées de porter l'agent de la tuberculose. Alors, rappelez-nous un petit peu les faits en quelques mots.
Alors, effectivement, c'est deux éléphantes qui ont vécu auprès d'une éléphante qui est morte avec la tuberculose et du coup les autorités par précaution souhaitaient les euthanasier sans procéder à des tests pour contrôler leur positivité à la tuberculose, alors que le propriétaire et puis toute une flopée de gens
oui.
Qui aiment les animaux bien sûr refusaient ce traitement.
Et d'autant que vous avez été un peu tenu à distance de ces éléphants. C'était étonnant d'ailleurs à l'époque, parce que vous êtes quand même une spécialiste des animaux sauvages.
J'avais pas eu le droit d'approcher les animaux pour les tester et démontrer si oui ou non ils avaient la tuberculose. C'était ça le problème. On nous refusait l'accès à l'animal, aux animaux. Et donc il a fallu aller en justice jusqu'au Conseil d'État pour avoir le droit de les déménager, de les tester et de démontrer qu'elle n'avait pas la tuberculose.
Et même ce que vous nous aviez expliqué à l'époque, puisqu'on avait fait vraiment, c'était vraiment un feuilleton hein, sur notre émission,
bah oui,
aussi,
oui, bien sûr.
C'est que si elles étaient positives, il y avait, en tout cas aux États-Unis, on les traitait contre la tuberculose.
Oui, et pas seulement aux États-Unis, hein, parce qu'en Europe, il y a aussi eu des cas qui ont été traités. Alors, le traitement, c'est beaucoup plus délicat, parce que, bien sûr, tous les animaux ne peuvent pas être traités. Ça nécessite un très fort entraînement, ça nécessite aussi toute une organisation, puis aussi que l'animal supporte le traitement, ce qui n'est pas non plus donné à tous les animaux. Donc, valait mieux qu'elles soient négatives, c'était vachement plus sympa.
C'était sûr. Et donc là, elles étaient, en fin de compte, elles sont négatives.
Donc, on les a déménagées parce qu'on n'a pas pu les tester sur place.
Oui.
La princesse Stéphanie a construit des installations pour qu'on puisse faire le nécessaire. Et elle s'avère complètement négative. On les a testées donc l'année même du déménagement et depuis tous les ans. Le dernier test était cet été et il est toujours aussi négatif qu'au début.
Alors, il paraît que c'est donc c'est la princesse Stéphanie de Monaco qui les a pris en charge et il paraît que c'est sa fille Pauline qui lui a demandé d'intervenir auprès de ses éléphantes quand l'affaire a été connue.
Oui, ça a été la lanceuse d'alerte pour sa mère. C'est elle qui a entendu parler de l'histoire aux informations et qui lui a demandé de faire quelque chose, en effet.
Mais c'est incroyable parce que ces deux éléphantes avaient vraiment, il y avait tout un élan de solidarité à l'époque pour qu'elles ne soient pas euthanasiées. C'était étonnant. Même des personnalités qui vraiment ont donné leur point de vue et qui se sont liguées contre cette décision d'euthanasie.
Alors, ça a été un travail de groupe, d'abord. D'abord le propriétaire, le serpentaire, qui a mené le combat judiciaire, qui était quand même assez important à mener, puisque bien sûr, sans ce combat judiciaire, les décisions étaient entérinées. Donc il a fallu aller jusqu'au Conseil d'État.
Oui.
Pour pouvoir faire patienter, comment dire, parce que bien sûr, aller au Conseil d'État n'est pas suspensif d'une décision du tribunal. Bien sûr, il fallait pouvoir faire patienter alors que le temps nous manquait.
Mmh.
Et c'est là que toutes les autorités ont eu leur influence. Alors, les autorités politiques, puisque bien sûr, jusqu'au président de la République...
Qui est intervenu,
le ministre de l'Agriculture. Il y a eu aussi, bien sûr, toutes les associations de protection animale, avec notamment la fondation Bardot, qui a été très, très impliquée dans le fait de faire suspendre cette décision en attendant que la justice tranche.
Oui.
Et puis, et bien sûr, beaucoup d'amis des animaux qui sont aussi ont manifesté, ont fait en sorte qu'on puisse attendre cette décision du Conseil d'État. Et puis, bien sûr, après le travail de la princesse Stéphanie, qui, elle, a trouvé la solution technique en construisant des installations chez elle et en permettant que les animaux soient recueillis et testés chez elle.
Alors, vous dites au bonheur des éléphantes, est-ce qu'elles sont heureuses aujourd'hui? Où sont-elles? Comment vont-elles?
Alors, pour vous décrire un peu le
je crois que c'est un peu un palace 5 étoiles, hein, c'est
voilà,
ça?
Voilà, c'est ça. C'est qu'elles ont vu sur la mer, dans la montagne, avec plein d'herbes abroutées partout. Il y a des gens qui mettent des chèvres ou des moutons pour ôter l'herbe.
Là, ce sont des éléphants.
Voilà. Elles ont une routine éléphantesque, c'est-à-dire, c'est des animaux qui aiment être dans une certaine routine pour être rassurés.
Oui.
Donc elles ont la douche tous les jours, les soins des pieds tous les jours, donc un entraînement très très précis pour pouvoir simplement s'occuper correctement d'elles, avec une équipe dévouée d'entraîneurs que sont les deux entraîneurs, dont la princesse qui mène les éléphants elle-même.
Oui, alors ce que j'ai vu, c'est
il y a d'ailleurs des photos dans votre livre, on la voit. Hein.
Oui, on a l'impression qu'elle vient tous les jours. Alors elle met même en préface de votre livre, nous allons vieillir toutes les trois sur notre bout de paradis perché sur les montagnes. Elle est très attachée à ces éléphantes.
Oui, alors il faut savoir que, un, ce sont des éléphantes très attachantes. Deux, les éléphants sont d'une façon générale extrêmement attachants parce que ce sont des animaux, c'est ce que je décris. C'est pour ça aussi que c'était important de mener ce combat, notamment d'un point de vue judiciaire, parce que en fait, il y a plein d'animaux qui pourraient être dans les mêmes situations, mais qui n'ont pas ce côté aussi sexy, aussi attachant que les éléphants. Et là, les éléphants ont réussi à mobiliser beaucoup de monde, parce que c'est une espèce assez extraordinaire. Et grâce à elle, grâce à Bibi et Népal, et grâce au combat judiciaire qui a été mené, d'autres espèces qui n'ont pas cette chance d'être aussi attachantes vont pouvoir bénéficier du même traitement. Et donc ça, c'est vraiment intéressant.
D'accord.
Donc les éléphants sont extrêmement attachants et effectivement, on fond assez facilement devant leur regard, leur mimique, leur espièglerie. C'est des éléments qui sont extraordinaires.
Merci Florence.
Merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Au bonheur des éléphantes » aux éditions Belin. Et c'est vrai que c'est un livre avec beaucoup d'anecdotes, on revit ce qui s'était passé, plus d'autres anecdotes de votre métier de vétérinaire spécialisé en faune sauvage, et c'est vraiment passionnant.
Voilà, une belle histoire donc. Laetitia, il est pratiquement 7h20, on revient dans un instant.
Oui.
Le 32-16, bien sûr, pour poser toutes vos questions animaux, ou bien animaux@rmc.fr, et on va découvrir dans un instant un collègue à vous, Laetitia, un éducateur, c'est comme ça qu'il se surnomme. À tout de suite, c'était RMC.
Le week-end. week-end des experts sur RMC.
Les animaux domestiques, ça apporte quelque chose de plus à l'être humain.
Vos animaux.
Le chat, il sert à rien.
Ça t'apporte des tas d'emmerdes que t'avais pas avant.
François Sorel, Laetitia Barlerin.
C'est RMC, c'est le week-end des experts. Merci d'être là. Notez que dans quelques instants, on retrouvera la météo et les infos de 7h30. Mais dans l'immédiat, Laetitia, allez, direction le Québec, on va découvrir l'un de vos collègues.
Comportementaliste,
un éducateur qui est avec nous en studio et qui officie sur Radio-Canada.
Voilà, et vous êtes un peu Daniel. Bonjour d'abord, Daniel Filion.
Bonjour Daniel.
Bonjour.
Donc spécialiste en comportement félin au Canada et vous vous définissez, oui c'est vrai, comme un éducateur. Moi j'adore ce nom.
Merci beaucoup.
vous êtes en France d'ailleurs pour donner des conférences hein, sur le chat en oui, ce moment. Hein, ça finit aujourd'hui je crois bien.
Oui c'est ça, j'ai eu deux week-ends où j'ai été invité par le Centre de bien-être animal.
De Paris,
oui. Quelque chose qui m'a vraiment surpris parce que je connaissais un petit peu le centre et je sais qu'ils accueillent des gens de haut niveau, de mes mentors ici, comme Joël Dehaas et des gens comme ça qui viennent ici. Et quand on m'a dit, on voudrait t'inviter, on voudrait passer deux week-ends ici à faire des conférences, j'étais très, très, très surpris. Et en même temps, j'ai dit, mais quelle belle occasion d'aller voir les différences entre les chats québécois et les chats français.
Et on aimerait bien les connaître, justement. Oui. Alors, vous savez que le chat est l'animal préféré des Français, puisqu'on a 13 millions de chats et seulement 7 millions de chiens. Est-ce que c'est la même chose au Canada? Est-ce qu'il y a plus de chats que de chiens? Quelle est la place du chat dans les foyers?
La proportion est un petit peu plus grande au Québec. C'est 3 fois plus de chats que de chiens chez nous. 50% des gens qui ont déjà un chat en ont un deuxième. Et la plupart des gens qui ont un chien vont avoir également un chat. Donc, évidemment, les grosses différences. Il y en a beaucoup de différences que j'ai vues ici, mais ce qui m'a plus frappé, c'est le fait que c'est sensiblement les mêmes besoins qu'on a et les mêmes problématiques comme ça.
Ah oui? Oui.
Donc les chats français et les chats québécois sont les mêmes?
Sont les mêmes, mais les propriétaires ont des grosses différences. Ah. C'est là qu'est la grosse différence.
Ah. Là, on va rentrer dans les détails.
Voilà, là, on va rentrer dans les détails. Et d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu votre autobiographie, on va dire. Vous avez d'abord commencé dans la communication, le marketing, et vous avez décidé de vous consacrer au comportement félin. Pourquoi?
C'est arrivé un petit peu comme ça. J'ai eu un chat, un certain. D'ailleurs, ça a commencé ici, en Europe. J'ai travaillé pendant 3 mois en Suisse allemande, où j'ai rencontré un comportementaliste félin. Et à ce moment là, j'avais l'intention à mon retour d'avoir un chat et puis j'ai commencé à m'informer. Mais quand je suis arrivé chez moi à la maison, j'ai entraîné mon chat Wookie que j'ai actuellement comme un chien. Il m'accompagne partout en laisse, il marche partout.
Et ah là, bon? Comme un chien.
Comme un chien. Et bon, c'est un Maine Coon. Les gens qui connaissent les Maine Coons, ce sont
des gros chats.
Alors un homme qui se promène à l'extérieur sur le trottoir avec un chat gros comme ça, ça attire l'attention. Beaucoup de la gente féminine également. Et
C'est génial pour draguer, petit truc
pour les messieurs là, je vous dis ça marche vraiment.
Et le Maine Coon en laisse c'est un attrape fille. D'accord.
Vraiment. Et les gens commençaient à me poser des questions et comme j'étais en marketing, j'ai vu qu'il y avait un besoin. Alors j'ai fait une étude marketing et je suis allé voir les spécialistes en comportement les vétérinaires pour leur dire écoutez, je veux pas m'improviser, c'est un petit peu ce que j'ai fait aussi ici cette semaine où je suis allé voir des vétérinaires comportementalistes, des gens qui travaillent dans le métier, pour leur dire, je veux pas m'improviser, mais j'aimerais ça pouvoir aider. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et ça a commencé un petit peu comme ça, où on a eu l'appui des vétérinaires au Québec. On a une très, très belle collaboration des gens là-bas. Et il y a vraiment un manquement. C'est un petit peu... J'ai vu à peu près la même chose ici. Le chat, un petit peu, la vision que les gens ont, c'est...
Des idées reçues?
En fait, je résume ça souvent comme ça. Le chat, on adopte, on amène à la maison, on met dans la litière, on tourne l'interrupteur à on, et ça y est, on n'a plus besoin de s'en occuper. Hein? C'est un petit peu ce genre de choses-là qu'on a. Donc, j'ai vu sensiblement les mêmes choses ici. Mais au niveau des différences, c'est vraiment au niveau de l'espace que vous avez, qui est très, très, très différent ici.
Et vous avez plus d'espace chez vous?
Oui,
c'est ça. Parce qu'ils sortent, parce que nous, on a beaucoup de chats d'appartement. Oui. Est-ce que c'est le cas aussi au Canada?
On a beaucoup de chats d'appartement, mais chez nous, on est aux prises avec un gros problème de surpopulation féline à l'extérieur. Donc, à Montréal, par exemple, on a au-dessus de 500 chats au kilomètre carré qui se promènent dans les rues et tout ça.
Mais c'est les chats abandonnés ou les chats?
Il y a des chats abandonnés, il y a des chats qui vont à l'extérieur. Il y a beaucoup un gros problème de chats errants chez nous. Beaucoup que vous avez pas presque du tout ici.
C'est-à-dire on gère les populations, on stérilise beaucoup, hein, il y a des associations qui s'occupent de ces chats. Mm-hmm. Mais dans les appartements, est-ce que c'est... Alors, je sais par exemple, je voulais vous demander, parce que je sais qu'en Amérique du Nord, on égriffe les chats, c'est-à-dire qu'on les opère pour leur enlever les griffes.
Ouh là là, Laetitia.
Interdit en France et en Europe.
Absolument.
Vous en pensez quoi?
Nous autres, on travaille très très fort pour essayer de changer cette mentalité-là. C'est en fait au Québec, lorsqu'on fait stériliser un chat en bas âge, souvent ça vient comme un trio, comme chez McDo. On dégriffe, on stérilise et on vaccine.
Et
les gens ne sont juste pas conscients de ce que c'est le dégriffage. Pour eux, c'est juste d'enlever l'ongle. Et quand on commence à leur faire comprendre que bon, c'est une amputation, on coupe vraiment le bout du doigt, et qu'il y a surtout des alternatives qui existent. Et nous, on ne comprend pas les alternatives. Mmh. Les gens ont essayé le petit griffoir et ça n'a pas fonctionné. Et donc, on dégriffe. Donc, c'est comme ça. Donc, on travaille très, très fort pour en arriver au même point qu'ici.
Bon, ça va, l'ambiance vous plaît? C'est comme à Radio-Canada ici, Daniel, ou pas?
Oui, en fait, c'est très sympathique.
C'est sympa, hein?
Oui.
Vous avez vu, on a un beau studio.
Absolument.
Hein, avec de la lumière, des caméras, etc. Laetitia.
Oui.
Bon, et j'imagine que comme ici à RMC, Radio-Canada, il y a de la météo et des infos.
Eh oui.
Et ben voilà. Donc, bientôt 7h30. On va revenir dans un instant sur RMC, Météo Info. Et toujours avec nous, donc, notre éducateur ce matin, Daniel Fillon et puis Laetitia Barlerin. 32-16 si vous voulez poser vos questions, ou animaux@rmc.fr par mail ou par courriel, comme on dit chez vous. Parce que c'est vrai que nous, on dit mail.
Oui, vous utilisez beaucoup de mots anglophones.
C'est vrai.
Oui.
C'est vrai. Alors que vous, vous faites la chasse à ça. Non, mais c'est vrai.
Attention.
C'est vrai. Allez, à tout de suite. Laetitia, attention, il est temps de retrouver une question flash. Est-ce que vous êtes prête pour répondre à la question d'Anthony en moins de 2 minutes? Question qu'on a eue sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Depuis que son second chien est décédé il y a quelques mois, Laetitia, mon ami ne peut plus s'absenter de la maison. L'autre chien, caniche de 11 ans, hurle à la mort et les voisins ont lancé une pétition pour que cela stoppe. Ça va loin, cette histoire.
Oui.
Tout le monde lui conseille de lui mettre un collier anti-aboiement. Qu'en pensez-vous?
Alors, le collier anti-aboiement que l'on peut acheter, soit c'est un collier qui envoie un jet avec une odeur de citronnelle ou de moutarde quand le chien aboie,
d'accord,
soit il lui envoie une décharge électrique.
Ah, vous faites bien la décharge électrique.
Voilà. Alors, le problème ici, c'est que votre chien, le second chien qui a perdu son compagnon, il est sûrement en dépression.
Bien sûr.
Donc le collier ne va rien résoudre et au contraire va aggraver son état émotionnel. Donc non, pas de collier. Il faut, puisque ce chien n'est pas bien suite au deuil du premier chien, il faut aller voir le vétérinaire. Ça, Anthony, c'est très important. Allez voir votre vétérinaire qui va vous prescrire. Alors, j'en parle très souvent, des phéromones apaisantes qui peuvent apaiser le chien. Il faut peut-être lui donner des anxiolytiques, pourquoi pas. Il faudra lui laisser un pull avec votre odeur aussi pour que ce chien se sente un peu rassuré. Pourquoi pas laisser la radio allumée avec une musique douce ou jolie voix. Peut-être que ça lui fera du bien, ce chien aussi.
Moi, je choisis votre jolie voix, bien sûr.
Mais surtout pas de collier anti-aboiement. Surtout là, quand on a vraiment un problème, ce qu'on appelle un déséquilibre émotionnel, c'est-à-dire que le chien n'est pas bien, lui mettre en plus cet objet de torture, non, surtout pas, Anthony. Allez voir le vétérinaire. Ce chien n'est pas bien, tout simplement parce qu'il fait sûrement une dépression suite à ce deuil.
32-16 pour toutes vos questions animaux sur RMC. On vous attend.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Votre matinée sur RMC, tout à l'heure à partir de 8h, on va changer d'univers, ce sera l'automobile, juste après les animaux. Et c'est Jean-Luc Moreau qui me rejoindra. 2 heures dédiées à l'auto chaque dimanche sur RMC entre 8 et 10, avec un spécial salon de Tokyo. Quelles sont les nouveautés qui ont été présentées au Japon? Jean-Luc y était, il va nous débriefer tout à l'heure. Vous verrez que les grosses tendances, c'est évidemment l'hybride et l'électrique. Et puis, bien sûr, toutes vos questions auto, tout à l'heure à partir de 8h au 32-16. Mais dans l'immédiat, il est toujours à mes côtés. C'est notre... vétérinaire, Laetitia Barlerin. Laetitia, ce matin, invitée exceptionnelle.
Oui.
Nous avons
Daniel Fillon, un vrai spécialiste du comportement félin au Canada.
Au Canada.
On l'entend avec son joli accent. Et donc on parlait un petit peu des différences entre le Canada et la France concernant le chat et le comportement du chat. Alors vous donnez les consultations bien sûr pour des propriétaires de chats qui ont des problèmes avec leur chat. Est-ce que c'est les mêmes causes de consultation? Est-ce que c'est les mêmes motifs en France et au Canada?
C'est les mêmes motifs dans à peu près la même proportion, environ 75% des gens vont nous consulter pour des problèmes d'élimination inappropriée.
Donc de malpropreté, comme on dit.
Donc c'est ça. Par la suite, c'est beaucoup de problèmes d'agression, soit entre chats, soit envers les propriétaires, et beaucoup également au niveau des miaulements intempestifs la nuit, se faire réveiller, tout ça, qui est probablement le problème que les gens vont tolérer le plus sans savoir que il y a des solutions, et des solutions très simples pour retrouver ses nuits complètes, ne pas se faire réveiller par un beau miaulement la nuit.
Il y a les boules quies, comme on dit. Il y a d'autres solutions.
Alors, nous avons Christiane avec nous au téléphone.
Oui.
Christiane qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Christiane.
Daniel, Laetitia et toute l'équipe.
Bonjour Christiane.
Un régal entendre l'accent canadien.
c'est chouette. Hein.
C'est formidable. Alors voilà ma question. C'est-à-dire j'en aurais deux aussi.
Vous savez quoi, Christiane, c'est bien parce que je vais faire travailler mon collègue.
Voilà. J'ai pas de problème.
je fais une pause.
Et nous on écoute.
Hein, et nous on écoute. Voilà. Non, on va confronter un petit peu pour savoir si je suis d'accord avec lui ou pas.
Parfait. J'ai pas de problème.
Alors bonjour Daniel.
Bonjour.
Alors, donc, j'ai un petit chat qui a 8 mois. Mm-hmm. Il est adorable, intelligent, il me suit quand je vais me promener, je fais ma promenade. Mais par contre, il vole. La moindre nourriture, un morceau de pain, lorsqu'on met le couvert pour se mettre à table, il monte sur la table. On peut pas tourner le dos, il est toujours en train de voler de la nourriture.
Ah oui, c'est un chapardeur, votre chat.
Et je crois que vous utilisez un pulvérisateur, c'est ça?
C'est ça, à eau.
Oui.
Et donc, ça lui fait de l'effet un petit peu, mais c'est pas ça encore, hein.
Et oui, voilà. Et puis il faut toujours le guetter, c'est-à-dire qu'il faut être là, le surveiller. Dès qu'il prend un truc, il faut être tout le temps derrière lui, quoi. C'est
fatigant. Vous êtes le James Bond des chats, c'est ça?
Oui.
Une autre petite question aussi, Daniel.
Oui.
C'est que j'ai une petite minette de 6 ans, et donc, lorsqu'elle vient manger avec lui, il est souvent en train, qui lui souffle, mais il veut toujours l'embêter, et elle a des réactions un petit peu, elle met sa patte et elle souffle un petit peu, mais c'est pas bien méchant, mais j'aimerais bien qu'ils s'entendent encore un petit peu mieux, voilà.
Pas de problème.
Bon, Daniel, vous avez vu, les auditeurs en France, c'est deux questions, hein. C'est pour le même prix en plus. C'est pour le même prix.
C'est bien.
Eh oui, non, on est comme ça.
Ça va plus vite comme ça. Parfait. Au niveau des deux problématiques, bon, la première chose, que ce soit n'importe quelle problématique en comportement félin, il peut toujours y avoir une sous-tangente médicale. Donc, que ce soit n'importe quelle problématique, on dit, allez voir votre vétérinaire. Assurez-vous d'éliminer toute cause médicale avant de traiter le comportemental. Ceci dit, dans votre problématique de ce qui est pour le petit voleur de nourriture, souvent les gens vont utiliser, bon, ce que j'appelle l'arme par excellence, c'est le vaporisateur d'eau. Le problème avec le vaporisateur d'eau, c'est que c'est totalement inefficace. Les gens vont dire, oui, mais ça fonctionne, comme vous me l'avez dit, il y a un petit effet. Oui, mais est-ce que le chat recommence? Et les gens vont dire, oui, ça recommence. Donc,
ça marche pas.
On voit. Et la raison pour laquelle ça fonctionne pas, c'est que le chat n'a jamais vu le vaporisateur d'eau lui courir après dans l'appartement tout seul sans que la personne soit là. Donc le chat comprend très bien que le vaporisateur d'eau, il est actionné par la propriétaire. Alors, quand on parle de ce genre de comportement-là, des comportements un petit peu indésirables, il faut plutôt retourner la question de côté. C'est non pas se demander ce que l'on ne veut pas que notre chat fasse, mais qu'est-ce qu'on aimerait qu'il fasse à la place, et lui entraîner à faire ça. Donc, par exemple, si on a un chat qui monte sur la table, chipper un petit peu de poulet et ça, ben, est-ce que ça serait plus payant de rester à un endroit par terre et lui montrer que si tu es patient, si tu restes là,
tu auras ton petit bout de poulet.
Et voilà. Donc, c'est sûr qu'il faut pas laisser le poulet entier sans surveillance sur la table.
Non, ça, c'est
plus difficile.
Même moi, vous savez.
Oui,
hein.
C'est ça.
Moi, j'y vais, hein. Alors, bon, pas sur la table, mais.
C'est ça. Donc, c'est de travailler à ce qu'on appelle un renforcement différentiel, c'est-à-dire de donner une alternative au chat qui va plus payer. Pour ce qui est de la deuxième chose, là, c'est un petit peu plus compliqué, où là, il faudra avoir un petit peu plus de détails. Mais lorsqu'on on parle de mésentente entre les chats, il faut falloir travailler sur la relation des chats. Donc, leur montrer que vous avez beaucoup plus intérêt à vous entendre. C'est beaucoup plus payant de vous entendre que de vous chamailler comme ça. Mais en même temps, vous savez, le chamaillement chez le chat, moi, tant que c'est du grondement, un petit peu de
feulement,
c'est ça. On les laisse, j'appelle
c'est
ça des
discussion.
Négociations contractuelles. Alors, laissons-les négocier, et tant que ça ne dépasse pas ce cadre-là, laissons-les faire, et si on voit que ça perdure, ben là, faire affaire avec un consultant comportement félin pour voir si on pourrait pas aller plus loin. Bon. Est-ce que ça va?
Laetitia,
ah,
bah,
moi,
oui.
Mais parfait, moi, je...
Bon, écoutez, moi, je monte ma petite pancarte, OK, pour moi. Ça va?
C'est parfait pour moi.
Parfait. Bon, très bien.
Alors, moi, j'avais une petite question. Oui. Est-ce qu'il y a des objets, pour vous, vendus pour les chats dans les magasins qui sont inutiles?
Qui sont inutiles. J'aime pas beaucoup le laser. C'est un objet qui est très, très, très populaire. Pourquoi? Parce que le laser...
Pourtant, il joue bien avec. Hein?
Oui, mais il faut faire attention. Lorsqu'on termine avec le laser, le chat a besoin d'attraper sa proie. Alors, c'est très important.
Ah, c'est à dire qu'il perd à chaque fois. Quoi.
Il perd à chaque fois. Et souvent,
oui. Il est frustré après, c'est ça?
Il peut y avoir des chats qui vont aller jusqu'au point de faire ce qu'on appelle de l'agression redirigée. Il va tellement être frustré qu'il va chercher quelque chose à taper par la suite.
Ah,
ça
oui.
pourrait être la propriétaire.
Ah ben oui.
Ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Donc souvent, quand je veux dire, quand on joue avec le laser, oui, mais terminer avec un jouet qui va pouvoir attraper, oui. qui va pouvoir... Donc, faut faire attention.
Pour qu'il gagne un peu.
Et
pour
voilà.
qu'il arrive à parvenir à ses fins. Vous êtes d'accord, Laetitia, là aussi?
Oui, c'est vrai. C'est un jouet parmi les autres, mais il faut vraiment... Voilà. Mais c'est vrai que c'est, enfin, moi je sais que ça a sauvé pas mal de chats le stylo laser parce que les personnes ne savaient pas comment jouer avec leurs chats, les chats d'appartement bien entendu, hein, qui restent enfermés. Mm-hmm. Est-ce que vous diriez que le chat est un animal intelligent?
Oui, tout aussi intelligent. Les gens sont souvent surpris quand je fais faire des tapements 5 ou des assis, des roulés, des fais le mort avec mon chat. On peut faire.
C'est-à-dire vous lui donnez des ordres et
fait ce que. Absolument, fais le mort, il va se coucher sur le côté, il va faire. On est capable de faire tous les mêmes trucs que l'on fait avec un chien, avec un chat. C'est la même intelligence, c'est la même chose, ça s'entraîne de la même manière et c'est même bien d'entraîner les chats. S'il y a des gens qui veulent l'essayer à la maison, on peut regarder sur Internet. Il y a plusieurs vidéos qui montrent comment faire. C'est une façon passionnante de donner de l'activité, de l'enrichissement de milieu, qui est probablement la chose la plus difficile. Et surtout ici, dans vos petits appartements, si on compare aux nôtres.
Eh oui, on a des petits, en fin de compte, on a des petites surfaces par rapport
et
à vous.
Et voilà, donc, d'enrichir le milieu avec de l'entraînement, des centres d'activité alimentaire, de la hauteur, beaucoup de jeux, jouer deux fois, trois fois par jour avec son chat. Bon, on n'a pas besoin d'une demi-heure, 10-15 minutes de temps avec un chat, ça suffit. Mmh. C'est des choses qui sont les plus importantes parce que ce que je vois, c'est exactement la même chose ici qu'au Québec. Beaucoup d'environnement hypostimulant, très peu de stimulation, où c'est des félins, oui, c'est moins compliqué qu'un chien, mais ils ont quand même des besoins et il faut enrichir leur milieu.
Bien sûr. Bon, Daniel, vous êtes un peu trop bon pour nous. Bon.
Donc bien parce que je pense que je vais pouvoir prendre des vacances de temps en temps. J'appelle Daniel.
D'accord.
Allô, Daniel, venez remplacer.
En plus, c'est pas très loin. Hein.
Bon, non,
6-7 000 kilomètres, donc c'est vite fait. Donc non, en fait, ce qu'on voulait faire avec Laetitia, c'est monter d'un cran et vous trouver une question encore plus compliquée.
Allez-y.
Voilà. Donc, parce que là, c'était trop facile, oui. hein, tout à l'heure.
Le bout poulet
volé sur la table, etc. Là, next step.
Allons-y.
Excusez-moi. Next step, c'est encore un truc.
On dit ça aussi. Ça
vous le dites
oui,
aussi?
Oui.
Très bien. Et nous avons Régine qui est là. Bonjour, Régine.
Bonjour à vous trois. J'adore votre émission.
Oh,
et je suis ravie vraiment de vous avoir parce que j'ai ce petit souci, là. Voilà. Mon fils a trouvé un petit chat, il devait avoir à peine 10 jours. Donc, je l'ai élevé au biberon.
Oui.
Et on me conseille de m'en séparer, on m'a même conseillé de l'euthanasier.
Oula!
Mais vraiment.
C'est qui les on, là?
Allez, je donne des noms. C'est Lapa. Parce que quand j'ai été voir pour.
Pardon,
avoir
qui ça?
L'association protectrice des animaux.
D'accord. Bon.
D'accord.
Et
voilà.
Pourquoi ils vous ont dit ça?
Parce qu'ils m'ont dit que c'est des chats à problème. Élevés au biberon, c'est des chats qui plus tard deviennent agressifs ou. Voilà.
Okay. Bon, alors, Daniel.
on va s'entendre sur deux choses. La première, c'est normalement, on devrait laisser un chaton au minimum de 12 à 14 semaines avec la mère, parce que la mère va faire de l'éducation. C'est elle qui va apprendre les autocontrôles émotionnels. C'est elle qui va apprendre au chat à se calmer, à ne pas trop s'exciter ou encore à ne pas paniquer lorsqu'il se retrouve seul. On s'entend là-dessus. Maintenant, nous, au Québec, comme j'ai dit, on a un gros problème de surpopulation féline où il va y avoir beaucoup de gens qui vont élever des chatons au biberon et tout ça. On peut parfaitement arriver à élever un chaton au biberon. C'est sûr que ça fait souvent des personnalités un petit peu extrêmes. C'est des chats qui n'ont pas beaucoup de limites, qui vont tester, qui vont faire un paquet de choses. Si on est capable de les élever avec d'autres chats, c'est encore mieux. Parce que
ou même des chiens.
Ou même des chiens. D'avoir un autre animal qui va interagir avec lui, ça va très bien. Mais de là à dire qu'on abandonne ce genre d'animaux-là, non, pas du tout.
Régine, vous avez d'autres animaux avec vous?
Oui, alors j'ai deux chiennes adultes et un chat adulte.
Ah, mais il n'y a pas de problème.
Pas de problème.
Voilà. Le chat adulte ne fera jamais une aussi bonne job, comme on dit au Québec, que la mère, mais il va quand même pallier à beaucoup, beaucoup de problèmes et il va y avoir une interaction qui va se faire entre les deux. Et vous aurez, moi, selon moi, il n'y aura aucun problème. Là. On n'abandonne pas un chat pour ça, ce n'est pas une raison du tout, du tout, du tout.
C'est horrible. Mais voilà, oui. Vous êtes rassuré.
Voilà, Régine.
Oui, surtout que mon chat adulte, il joue beaucoup et puis, bon, des fois, il y va un petit peu sévèrement, donc je le laisse faire.
Laissez faire. Alors
voilà.
Laissez faire. Hein. C'est votre chat adulte qui va contrôler le petit et lui apprendre, l'éduquer justement. Mmh. Donc laissez faire justement.
Parfait.
Merci voilà. Régine.
Gardez votre chaton.
Ça fait un mois déjà que je l'ai. Bah, parfait, ça me rassure beaucoup. Je vous remercie beaucoup.
Parfait.
Merci Régine.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Bon, bah écoutez encore, Daniel, c'était parfait. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, Laetitia? On l'attache et on le garde ici. C'est même pas la peine qu'il rentre au Canada, non?
Bah oui, c'est bien la France.
J'avais pas besoin de m'attacher, moi je reste ici.
Moi,
c'est vrai? Oui, j'adore votre ville, j'adore. Moi, vous aimez mon accent, mais moi j'adore votre accent.
Ah, bah,
j'étais très bien accueilli. Non, vraiment, les gens m'ont vraiment bien accueilli. Et de voir les différences, de voir les choses, c'est quelque chose que je voulais voir. C'est vraiment, vraiment... Et les gens sont vraiment passionnés ici, des chats, c'est vraiment...
Formidable. Oui, on est passionnés par les animaux et par les chats, c'est vrai aussi.
Il est 7h47, on revient dans un instant. C'était RMC, c'est le week-end des experts. Les animaux, à tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Pratiquement 8h-10, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Bonjour à vous toutes et à vous tous, si vous venez peut-être de nous rejoindre. Sachez que jusqu'à 8h, c'est notre vétérinaire Laetitia Barlerin qui m'accompagne avec nos invités. Daniel Fillion, qui est spécialiste en comportement félin au Canada et qui nous fait l'amitié, la gentillesse d'être avec nous ce matin. Laetitia, on a encore pas mal de questions par mail. Décidément, on n'arrive pas à coincer notre invité. C'est embêtant. On a même Brigitte qui nous dit « Bonjour, depuis quelques temps, mon chat de 11 ans fait ses besoins en dehors de sa caisse. » Ah, ça c'est un standard.
Ça c'est un classique.
Oui. Principalement l'endroit où elle dort. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut l'aider?
Oui.
En plus où elle dort.
Ah, oui, souvent, lorsque les chats font ou on dort, ça peut être deux choses. C'est ou bien on est un petit peu, on recherche l'odeur de la personne, on recherche une sécurité. C'est souvent lorsque les gens s'absentent à long terme, où il va y avoir des chats qui vont aller faire leur urine, là où l'odeur de la personne est la plus présente pour tenter de se rassurer. Ou encore, des fois, le classique, où on a un nouveau conjoint, où le chat va aller faire du côté du nouveau conjoint. Ça, c'est un autre classique où les gens pensent que le chat est jaloux. C'est pas du tout ça, c'est qu'il y a une petite perturbation au niveau du territoire et les chats vont vouloir camoufler l'odeur.
D'accord.
Dans le cas d'élimination inappropriée, la première chose, je l'ai dit tantôt, mais c'est très important, surtout avec les cas d'élimination inappropriée, d'aller voir le vétérinaire. Parce que 75...
Surtout, il est âgé, son chat.
Surtout, oui. 75% des causes d'élimination inappropriée sont d'ordre médical. Donc, vraiment, aller voir le vétérinaire en premier. Par la suite, et là, il y a une série de choses qui, ça me prendrait beaucoup plus que quelques secondes, mais de regarder le nombre de caisses de litière qu'il y a dans la maison, regarder
si
la disposition, si elles sont propres. Il y a un paquet de choses qu'on peut voir. Il y a beaucoup de sources sur Internet, faut faire attention. Je vais me permettre, mais le site d'Éduchateur, on a vraiment, éduchateur.com, on a vraiment des chroniques pour ça.
Oui, je vous conseille vraiment d'aller sur votre site, hein, Daniel Fillion, qui s'appelle Éduchateur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chroniques où on apprend les bases du comportement et un peu régler des problèmes classiques de comportement du chat. Mmh.
Très bien. Bon, Laetitia, notre invité reste toujours avec nous, hein, Daniel, mais on va découvrir un documentaire qui est diffusé cet après-midi sur France 2.
Dans la case Grandeur Nature, vous savez, sur France 2 à 16h25. Et ce petit documentaire s'appelle, c'est la journée des chats, 3 petits chats. Et nous avons avec nous Emma Boss, qui est réalisatrice de ce documentaire. Emma, bonjour.
Bonjour.
On vous avait déjà reçu pour un autre documentaire, mais là sur des animaux sauvages. Alors vous êtes un peu la spécialiste de la nature des animaux sauvages. Et là, vous faites un documentaire sur un animal de compagnie. Pourquoi vous intéresser aux chats?
Ben justement, l'idée, c'était d'inverser la perspective et de s'intéresser aux animaux domestiques, mais qui ont aussi une part sauvage en eux. On l'oublie, mais ce sont vraiment des félins, les cousins des lions et des tigres. On a essayé de les regarder comme ça.
Alors vous avez vous suivez la vie de trois chatons. Alors il y en a un qui ont vraiment trois destins, trois univers différents. L'un est un chat de ferme en France, un autre qui est un chat sauvage, on va dire, dans un port grec, et alors le dernier, un chat japonais dans un bar à chat à Tokyo. Comment avez-vous fait? Alors d'abord, pourquoi ces trois chats, et comment avez-vous fait le casting, comme on dit?
Effectivement, l'idée c'était d'avoir trois destins très contrastés, donc trois rapports au sauvage, trois rapports à l'homme. Dans la ferme, c'est le rôle utilitaire de chasseur de nuisibles, un petit peu. Dans le bar à chat, là, c'est vraiment l'autre extrême, le chat doudou, le chat peluche que les humains ont aussi pour se rassurer parfois. Et puis le chat grec, c'est le plus proche du comportement ancien du chat, le chat sauvage, le chat.
Oui, parce que c'est un chat errant en fait, c'est ça.
C'est un chat errant qui va sur le port,
voilà, pour essayer de manger ouais. Le pauvre.
Et le casting, effectivement. C'est fait de façon, dans le bar à chat, c'était d'abord l'idée du lieu, et puis après, il se trouve que c'est Kurumi, cette chatte absolument craquante qui arrive quand on est là, donc on la suit. Morissette, on a trouvé une chatte, et puis on a choisi parmi la portée celle qui nous paraissait la plus apte à devenir ensuite chasseuse, et elle nous a pas déçue, puisque en fait, dès les deux premiers mois, on voit vraiment qu'elle prend le dessus sur ses frères.
Elle est différente du reste de la portée, elle est beaucoup plus, alors elle s'aventure partout. Alors Morissette, pourquoi ce nom?
Pourquoi pas, cela dit.
Hein, voilà.
Morissette, c'est sympa.
Alors, on apprend beaucoup de choses sur le comportement, parce que vous avez, vous détaillez les comportements. On voit bien que vous vous êtes beaucoup documenté. Alors justement, est-ce que vous avez trouvé beaucoup de documents, de faits sur le comportement du chat?
L'idée, effectivement, comme ce que je fais dans les documentaires animaliers sur les animaux sauvages, c'est de me documenter, donc, au travers de tous les livres qui ont pu être écrits. Donc, j'ai lu notamment un livre de comportementaliste comme Desmond Morris sur le chat rêvé. Des études aussi, il y a en France, il y a des gens qui travaillent sur le chat arrêt, notamment Elsa Bonneau. Donc j'ai rencontré toutes ces personnes-là qui m'ont permis de me documenter pour ensuite décrypter les différentes séquences.
Ah oui, mais c'est extraordinaire, parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses sur les chats et son chat. Alors Daniel Filion, j'aimerais d'abord vous poser une question, et peut-être aux deux, qu'est-ce que vous en pensez des bars à chats?
Est-ce que ça existe au Québec, ça?
C'est tout récent, ça fait peut-être un an. Nous, on a aidé les gens là-bas, ils sont venus nous voir, puis nous disaient, on veut faire quelque chose, mais on veut vraiment que ça soit bien adapté aux chats. La beauté, c'est que nous, on se sert beaucoup de chats qui proviennent de refuges.
Voilà.
Donc, comme on a un gros problème de surpopulation, nous, ça nous aide et ça fait adopter les chats, donc il y a un roulement.
C'est-à-dire que ceux qui viennent consommer, ils peuvent éventuellement adopter les chats qui sont dans le bar, c'est ça?
Et
ce
voilà.
Qui n'est pas le cas au Japon. Hein.
Non,
là, ils sont plus...
Voilà, c'est pas dans le bar où je suis allée, mais il y en a d'autres en fait où ça peut arriver. Mais c'est vrai que je rebondis un petit peu. L'idée dans ces bars à chats, c'est quand même qui est quand même une prise de conscience aussi du bien-être des chats. On voit, il y a des étagères en hauteur, il y a des griffoirs, il y a des jeux,
oui.
Tout ce qui est fait aussi pour montrer, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'en fait le chat, il a besoin d'agir, il a son comportement de félin qui est là, de marquer le territoire, de jouer parce qu'il ne peut pas chasser. Et c'est important d'avoir tout ça en intérieur aussi.
Oui, mais c'est bien de faire justement dans le documentaire le parallèle entre le chat sauvage, comme on dit, qui est dans la nature, ou le chat de ferme, et le chat bar à chat qui est en fin de compte dans un endroit clos et qui a tout justement pour exprimer son comportement normal.
Ouais.
Alors je crois que vous aussi, Daniel Filion, vous avez fait une étude sur le comportement du chat avec des chats qui portaient des caméras.
Oui, on a fait 4 chats qui se sont promenés pendant un mois de temps avec une caméra au cou et un GPS pour essayer de voir quelles étaient les différences qu'il pouvait y avoir, où on allait, où le chat allait, mâle, femelle, qu'est-ce qu'il y avait. Alors moi je suis très intéressé de voir le documentaire de madame pour voir quelles sont les différences des chats à travers le monde. Est-ce que c'est la même chose que nous? Est-ce que c'est combien de kilomètres ils parcourent? Nous, on a été très surpris des femelles qui parcourent 15 kilomètres par jour. Là. 15 kilomètres par jour, mais ils le font à l'intérieur d'un rayon de 30 mètres de la maison, pas plus.
Ah ben voilà. Parce que,
oui, donc ils sont tout le temps en mouvement.
Tout le temps en mouvement.
J'ai mis moi des caméras sur des chats qui sortaient comme ça. J'ai demandé à des propriétaires de chats de mettre la caméra parce que le propriétaire me dit il sort toute la journée, je ne sais pas où il va. On va mettre la caméra.
Et on va surveiller.
Et on s'est aperçu que le chat il restait dans le jardin sur le toit du
oui,
petit
voilà.
cabanon et qu'il restait des heures sous le cabanon.
Il bougeait pas.
C'est la première chose qu'on regarde quand on se tape 100 heures de vidéo. La première chose qu'on dit, le chat ne fout rien de sa journée. C'est vraiment ça.
C'est un contemplatif, voilà.
Mais vous avez pas honte quand même de surveiller comme ça de la vie privée de ce pauvre chat, hein. Vous imaginez si on avait une caméra autour du cou? Ça serait un peu embêtant quand même,
j'avoue,
hein.
Que, ouais.
Bon, quand même. On sera sur France 2 cet après-midi.
Alors 16h25 dans la case Grandeur Nature, et je vous dis vraiment, ce documentaire est super. Vraiment, si vous aimez les chats, il faut le regarder. Vous allez apprendre beaucoup de choses, et en plus c'est mignon, mais c'est des belles images de chatons.
Merci beaucoup, Emma.
Merci beaucoup.
Merci aussi à Daniel Fignon d'avoir été avec nous pendant 7 heures sur RMC dans ce week-end des experts animaux. Laetitia, on se dit au revoir avec la vidéo l'autre 4 qu'on a sélectionné. Vous savez qu'en ce moment se déroule juste à côté la Paris Games Week, qui est le grand salon du jeu vidéo. Et justement, on a trouvé une vidéo rigolote. C'est deux chats qui jouent avec un iPad.
Et
ils voient une petite souris
sur l'iPad. Et alors là, c'est adorable en même temps.
Bon, je ne sais pas si l'iPad, lui, ne déguste pas un peu.
Disait avec le stylo laser, le problème, c'est qu'il n'attrape pas la souris.
C'est ça. Donc, il y a une frustration. Voilà.
C'est ça le problème.
Laetitia, on se retrouve bien sûr dimanche prochain, entre 6h et 8h.
Je vous remercie beaucoup à tous d'être venus. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous embrasse.
Et dans un instant, Jean-Luc Moreau pour l'automobile sur RMC après la météo et les infos. À tout de suite.
Retrouvez vos animaux en podcast sur rmc.fr.